Éco, le rendez-vous des entreprises en Occitanie avec Mescar. Mescar, maison d'investissement et de conseil, partenaire d'Éco, est présent à Toulouse.
Bienvenue à tous à l'écoute d'Éco pour la troisième émission avec Amandine Pillot, fondatrice et présidente d'AtouCap. Pour ceux qui n'auraient pas écouté les numéros précédents, je rappelle que vous êtes référente handicap, formatrice et consultante, experte sur les handicaps et l'inclusion en entreprise. Vous êtes vous-même malvoyante. Jusqu'alors, nous sommes revenus sur l'histoire d'AtouCap et nous avons présenté les clients et les services de votre société. Aujourd'hui, ce sont les processus de recrutement de travailleurs en situation de handicap, le discours que vous tenez aux entreprises et les conseils que vous leur donnez pour les convaincre du bien fondé d'une politique handicap et d'inclusion qui sont au centre de la présente émission. Et je salue et remercie encore une fois Amandine Pillot d'être au rendez-vous pour ce troisième numéro de notre série dédiée à AtouCap.
Merci Eric, bonjour à tous.
Je vais commencer par une question que je ne suis peut-être pas le seul à me poser. Lorsqu'on se lance dans le recrutement d'une personne porteuse de handicap, est-ce que le processus est le même, à peu de choses près, que celui d'une personne qui ne l'est pas ?
Alors, il y a beaucoup de choses qui sont similaires. Tout d'abord parce que aujourd'hui, on n'embauche évidemment pas une personne parce qu'elle est handicapée. On l'embauche avant tout pour ses compétences, ses soft skills. Enfin, il faut vraiment qu'elle ait le profil dont on a besoin.
Les qualifications, voilà. Et l'expérience aussi.
Tout à fait. Donc ça, effectivement, ça ne change pas. Par contre, on peut quand même... Il y a quand même des petites choses que l'on peut faire un petit peu différemment et que l'on peut adapter afin que ça se passe dans les meilleures conditions possibles pour tout le monde. La première étape peut-être, et moi la remarque dont me font part souvent les entreprises, c'est « mais nous, on aimerait bien embaucher des personnes handicapées, mais on n'a pas de candidature ». Donc déjà, il y a cette première étape, avant même, le recrutement, il faut réussir à identifier des profils, en fait, enfin, qu'il y ait des candidatures. Et parfois, on est un peu démunis parce qu'on se dit, mais ouais, on est ouvert au sujet, mais en fait, on n'a jamais de candidat. Pourquoi il n'y a pas de candidat ? Parce que, comme il y a de la discrimination à l'embauche, le taux de chômage est encore deux fois plus élevé chez les personnes handicapées que chez les autres. Et on constate qu'il y a vraiment de la discrimination à l'embauche, à travers des testings par exemple. Eh bien, les gens ont peur et préfèrent ne pas dire qu'ils sont handicapés pour avoir toutes les chances d'avoir un entretien par exemple. Donc la première étape, ça va être de se dire comment je fais pour avoir des candidatures. Et donc, pour ça, il y a plusieurs astuces, plusieurs choses à mettre en place. On peut déjà annoncer dans ses offres d'emploi que l'on a une politique handicap, une politique inclusive et que donc tous les profils seront, les candidatures seront examinées, voilà, seront les bienvenus. Ça peut être une phrase en fait qui va rassurer et qui va donc déclencher le fait qu'une personne handicapée va se dire « bon, en fait, je peux peut-être le dire, je ne serai sûrement pas discriminée par cette entreprise ». Donc ça, c'est un premier aspect. On peut aussi s'adresser aux référents handicap des écoles dans lesquelles on a l'habitude de recruter. Il y a plusieurs façons. Il y a aussi des sites ou des entités dans lesquelles on peut diffuser l'offre qui sont dédiées aux personnes handicapées.
C'est-à-dire ce sont des sites où les personnes en situation de handicap peuvent déposer leur CV et donc dans lequel des entreprises peuvent aller piocher comme sur n'importe quel site dédié à du recrutement.
Oui, alors il existe effectivement des CV tech spécialisés, mais il existe aussi des job boards spécialisés. Donc c'est-à-dire que les entreprises aussi peuvent déposer, diffuser leurs offres sur ces job boards spécialisés ou auprès de Cap Emploi, qui pareil est l'entité la publique, l'équivalent de Pôle Emploi. Enfin maintenant ça fait partie de France Travail, mais donc... qui est une entité vraiment dédiée aux travailleurs handicapés. Donc, en s'adressant directement à eux aussi, c'est une manière de faire en sorte qu'ils puissent postuler aux offres qu'on a.
Alors, autre question que je me pose, lorsqu'un recruteur est face à une personne en situation de handicap, est-ce qu'on peut ou est-ce qu'on doit lui poser toutes les questions possibles, en dehors de celles concernant la motivation et les compétences pour le poste, qui sont liées à son handicap, c'est-à-dire, est-ce qu'on peut lui poser des questions sur la manière dont elle le vit, sur la façon dont elle vit le regard des autres, sur les problèmes que ça lui pose au quotidien, c'est-à-dire, est-ce qu'il n'y a pas de tabou ? C'est peut-être la question qui vient derrière, à quel moment commence la discrimination ?
Oui, alors c'est effectivement un sujet intéressant, il faut Il y a beaucoup de choses qu'on peut dire et en même temps, il faut quand même faire attention.
Il faut faire preuve de tact, évidemment, mais comme avec n'importe qui d'ailleurs.
Bien sûr, tout à fait. Oui, donc du coup, dans un entretien d'embauche, c'est parfois délicat de parler de choses trop personnelles, hein, bien sûr. Mais je dirais, oui, comme vous dites, un peu comme pour tout le monde. En fait, il y a quand même une question notamment qui est interdite parce que c'est considéré comme une question discriminante. Et donc celle-là, il faut vraiment éviter de la poser. C'est quelle est la nature de votre handicap. Donc si, en tant que recruteur, vous avez un CV et vous êtes au courant que le candidat a une RQTH, donc une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, vous ne pouvez pas, en tant que recruteur, lui demander « Mais pourquoi avez-vous cette RQTH ?» Ça, c'est interdit, c'est considéré comme une question discriminante. En revanche, ce que vous avez le droit de lui demander, et presque le devoir hein, d'ailleurs, si vous êtes informé qu'il a ce statut-là, ça va être de lui demander quels sont ses besoins d'adaptation.
En termes d'aménagement de poste, par exemple.
Voilà, c'est ça. Et c'est quand même bien différent. Parce que beaucoup de travailleurs handicapés n'ont pas forcément un besoin d'aménagement. Et en tout cas, on doit quand même préserver hein, ce secret médical et ces informations personnelles. Donc un travailleur handicapé n'est pas obligé de communiquer à son employeur la nature de son handicap.
Donc la seule question qui est bannie, si j'ai bien compris, hein, c'est celle concernant la nature du handicap. On ne peut pas, lorsqu'on reçoit un CV, envoyer un mail derrière pour dire « Ah, au fait, quelle est la nature de votre handicap ?» Ça, c'est interdit.
Tout à fait, ça c'est interdit. Les autres questions, alors soit par mail, soit même à l'oral hein, pendant l'entretien.
Je pensais plutôt à des questions lors d'un entretien, effectivement.
Oui, oui, mais même en entretien, ça se voit parfois, hein, des gens qui vont dire « Ah bon, mais... » Donc oui, ça non. Après, leur demander, alors peut-être pas pendant un entretien d'embauche, leur vie quotidienne, leurs difficultés au quotidien, c'est peut-être un peu intrusif, je dirais, hein, par rapport à un handicap. Par contre, comment ils gèrent l'intégration dans une équipe par rapport à leur handicap ou est-ce qu'ils acceptent de parler de ça à leur manager et à leur équipe? Ça, vous avez le droit de le poser et ça peut être important même hein, parce qu'effectivement, ça c'est pareil, une RQTH et la situation de handicap, on ne peut pas en parler au manager ou aux collègues sans l'accord de la personne concernée.
Et alors vous, comment vous formez les recruteurs et les référents handicap en entreprise pour qu'ils aient les bons réflexes et les bonnes pratiques face à un candidat ou un futur employé porteur de handicap ?
L'idée, c'est d'adapter un petit peu son process de recrutement. Un des points, c'est ce qu'on vient d'évoquer, hein, d'essayer de comprendre ce qu'on peut dire et ne pas dire, de voir ce qu'on va pouvoir adapter. Est-ce que peut-être on regarde les CV un tout petit peu différemment? Est-ce qu'on modifie des choses dans l'entretien? Est-ce que après il y a des choses différentes au moment de l'onboarding? Voilà, on va revoir tout le process de recrutement afin qu'il soit plus inclusif. Mais l'idée, un des points essentiels, ça va être justement de trouver le bon équilibre. Parce que à la fois, il faut rajouter, disons, certaines petites choses, pas forcément gigantesques et très différentes, mais qu'il faut prévoir. Un petit accompagnement différent sur la période d'essai, l'adaptation du poste, des questions à ne pas poser, ce genre de choses. Et en même temps, il ne faut pas faire des différences incroyables. Hein. On les embauche pour leurs compétences et le but des personnes en situation de handicap, elles ne souhaitent pas non plus être trop stigmatisées. Hein. Donc justement, l'objectif dans ces formations, dans ces conseils, c'est de réussir à trouver, à doser, à trouver le bon équilibre pour ne pas être trop paternaliste, trop intrusif et en même temps proposer, apporter le petit accompagnement en plus qui va bien. Il faut vraiment réussir à doser entre les deux.
C'est une question de mesure, quoi. Il faut arriver à trouver la bonne mesure. En tout cas, j'imagine. Quels sont les principaux freins qu'opposent les entreprises pour recruter un travailleur handicapé? Ils vont dire « Ah ben, ça va me coûter plus cher » ou « Ça va être plus long le processus de recrutement, je vais devoir aménager le poste, je ne sais pas si je vais y arriver. » Et puis si on ne va pas se rendre compte au bout de quelques mois bah, que ça ne va pas fonctionner. C'est plutôt ça, ce sont des peurs qui parfois sont peut-être un peu irrationnelles.
C'est beaucoup de peurs qui sont, oui, souvent irrationnelles et beaucoup de croyances aussi, hein, où on imagine que ça va plomber la performance parce qu'ils vont être tout le temps absents ou pas être très efficaces. On entend encore des managers dire, par exemple, « Ah oui, moi, je suis très content que mon entreprise ait une politique handicap, mais c'est pas possible dans mon équipe, hein, parce que avec le métier qu'on fait et la rapidité qui est nécessaire, c'est impossible dans mon équipe. » Alors qu'effectivement, aujourd'hui, entre la diversité des handicaps et les niveaux de formation également qui augmentent, il y a quand même beaucoup de métiers, et la plupart, hein, qui sont aujourd'hui accessibles aux personnes en situation de handicap et qui, au final, d'ailleurs, on se rend compte que ce ne sont pas du tout des freins, qu'elles ne réduisent pas la performance d'une équipe, parfois bien au contraire. Donc, voilà.
D'où l'intérêt de mettre en place une véritable politique handicap à l'intérieur d'une entreprise, une véritable politique d'inclusion.
Oui, tout à fait. Hein, ça a plusieurs avantages. Ça a des bénéfices évidents déjà sur le fait de respecter son obligation d'emploi.
La législation.
Voilà. Et donc ainsi de réduire aussi ses coûts, puisqu'en fait, quand on n'atteint pas les 6% de travailleurs handicapés dans son entreprise, on doit payer ce qu'on appelle une contribution annuelle à la GFIMP, qui est calculée chaque année au printemps, en fonction du nombre de travailleurs handicapés manquants. Donc, si on met en place une politique handicap efficace, eh bien, on respectera son obligation et on payera moins, voire plus du tout, de contribution. Donc ça, c'est les premiers bénéfices évidents et qu'on voit tout de suite. Mais il y a aussi des bénéfices cachés. En termes de RSE, de marque employeur, de performance. Et puis, ça donne clairement du sens, des valeurs. Enfin, voilà. Donc, tout ça, c'est des choses que l'on voit souvent dans un second temps, mais qui sont une réalité et qui ont quand même de plus en plus d'importance. Hein. Aujourd'hui, beaucoup de collaborateurs cherchent du sens, des valeurs. Voilà.
Et c'est là que vous intervenez pour convaincre les entrepreneurs. Merci beaucoup Amandine Pilloux. Il nous reste encore un numéro dans la série que nous dédions à Tout Cap. Et la semaine prochaine, nous allons aborder justement votre pratique, votre conception de la RSE, la responsabilité sociétale des entreprises. À bientôt donc.
C'était Écho, le rendez-vous des entreprises en Occitanie, en partenariat avec Mescar. Mescar, la maison d'investissement et de conseil, partenaire d'Écho, est présent à Toulouse.